France Inter.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Des rayons pleins à craquer de bananes plantains, patates douces et épices en tout genre.
Des épices qui sont un petit peu moins démocratisées, comme le poivre de Penja du Cameroun, qui est l'un des meilleurs poivres du monde.
Et dans cette école de cuisine, Chef Anto initie ses élèves du jour à un plat typique ouest-africain, le mafé.
Il y a quelques années, j'ai décidé de me spécialiser dans toutes les cuisines africaines parce que je trouvais qu'elles étaient très méconnues en France. Alors, si vous connaissez le hachis parmentier français, vous devez à tout prix goûter le parmentier de banane plantain parce que je crois que vous allez faire des infidélités.
Ça compte pas l'Afrique, ça serait bon.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster cuisine africaine au menu de notre émission. Alors on fera évidemment pas le tour du sujet en une heure, d'abord parce que la cuisine africaine, ce sont plutôt les cuisines africaines au pluriel, avec une immense diversité selon les pays et les régions, mais aussi parce que nous consacrerons dans un futur proche des émissions à des cuisines subsahariennes comme celle du Cameroun et celle du Sénégal. Aujourd'hui, on va plutôt vous raconter comment les cuisines africaines s'expriment en France, un peu partout, de Paris à Marseille, de la Normandie au Limousin. Une nouvelle génération de chefs africains, afro-européens, français, afro-descendants renouent et font parler leurs racines dans leur casserole. C'est le sujet d'un ambitieux livre enquête, L'Afrique cuisine en France, un tour de France et de parcours inspirants en 60 recettes et 20 portraits de chefs aux éditions de La Martinière. Et ce livre que je tiens dans ma main droite est signé Véran Frediani. Bonjour Véran.
Bonjour à tous.
Réalisatrice de documentaires, journaliste, autrice, vous filmez la cuisine, vous écrivez sur la cuisine, vous l'interrogez dans vos projets. Vous allez nous raconter cette aventure passionnante. Vous nous venez de Marseille, hein?
Ah oui.
D'ailleurs, vous aviez signé le premier titre de ce qui pourrait être une collection, en fait. Hein,
oui, Marseille cuisine le monde, suivi par l'Afrique cuisine en France. C'est un peu deux tomes d'une même thématique.
Vous allez nous raconter votre aventure passionnante. C'est une vraie démarche documentaire, d'ailleurs.
Oui.
Tout à fait intéressante. La cuisine africaine en France, c'est aussi l'affaire d'une chef devenue une figure très respectée, charismatique sur la scène gastronomique. Anto Cocagne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes connue sous le nom de Chef Anto.
Oui.
Vous êtes française d'origine gabonaise, chef cuisinière, animatrice télé, vous venez d'ouvrir Baraka, hein, c'est
oui,
une épicerie.
Baraka, qui est une épicerie fine dans le 15e.
Vous allez nous en parler évidemment parce que ça signe aussi l'effervescence de la cuisine africaine à Paris. Vous écrivez des livres aussi. Alors il y a Goût d'Afrique que j'ai à mes côtés, sorti il y a quelques temps, recettes et rencontres chez Mango Éditions. Un nouveau livre sort le 23 novembre sous le titre
Mon Afrique.
Absolument, toujours chez Mango. Hein.
Toujours chez Mango, oui.
Pour nous accompagner pendant l'émission, Zazie Tavitian, Jean-Mata Christol, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Zazie.
Alors moi je suis allée préparer une pâte assez irrésistible, j'ai nommé la pâte d'arachide.
Ah, moi je suis carrément addict.
Vous allez vous régaler.
Je suis accro à la pâte d'arachide, autrement nommée aussi beurre de cacahuète, hein. Jean ?
Oui, alors moi aujourd'hui j'ai une question vraiment idiote à vous poser. Quel est le rapport entre l'Auvergne et l'Afrique de l'Ouest ?
Ah, à part le fait que ça commence par un A, Auvergne et Afrique, on va voir ça avec vous Jean tout au long de cette émission. Auditeurs et auditrices, pour vous abonner au podcast dont on va déguster ainsi qu'au podcast de toutes nos chroniques, ça se fait en un clic sur la nouvelle appli de Radio France. On va vous donner dans cette émission plein de bonnes adresses d'influence africaine en France, mais si vous avez à côté de chez vous un restaurant, une épicerie qui mérite d'être connue, partagez-nous vos bons plans dans toute la France sur franceinter.fr ou sur notre mail onvadéguster@radiofrance.com. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver toutes nos infos, nos recettes, nos contenus sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Nous sommes à Noailles. C'est un quartier populaire. Ça sent les épices, ça sent la nourriture, ça sent le marché. Ça sent beaucoup l'Afrique. Moi, par exemple, je suis congolais. Mon restaurant s'appelle Libala. Et Libala, ça veut dire mariage en lingala. Donc, c'est un mariage de culture et de saveur. Le Libala Burger, c'est une compotée d'oignons au bissap, à l'hibiscus, tomme de Savoie et pousse d'épinards, accompagné de frites de banane plantain et avec une mayonnaise avocat. Là, c'est vraiment le mariage de saveurs, de culture et d'association. Marseille, c'est une ville portuaire, donc du coup, ça emmène aussi cette ouverture au monde, ça emmène aussi cet échange. Les gens sont curieux de découvrir d'autres cultures, d'autres saveurs. Voilà, c'est vraiment l'identité aussi de Marseille. C'est vraiment ouvert au monde. En général, quand on mange, ça rassemble tout le monde.
Un extrait d'un reportage signé Clément Baudet à Marseille, dans les pas de Hugues Banda, l'une des figures de la nouvelle cuisine africaine en France.
Bah bien sûr, c'est pour ça que je vous ai amené quelques bonnes choses de chez Hugues aujourd'hui, notamment des gaufres à la farine de manioc.
Elles sont sous nos yeux.
Vous les avez, vous pouvez.
Vous aviez déjà en train d'attaquer.
Dans la pâte, il n'y a pas que du manioc, il y a des oignons confits, de l'ail, de la coriandre. Mmh. Et c'était à l'image en fait de la cuisine dont le livre parle. Cette nouvelle cuisine finalement qui est en train de s'écrire grâce à des chefs qui sont nés en Afrique subsaharienne et qui aujourd'hui mélangent les culture et remettent aussi à plat les recettes classiques des deux continents. Donc c'est vraiment pour moi un nouveau chapitre. Et d'ailleurs à Marseille, on a fait une grande fête pendant le festival Couscous, qui est un événement majeur
de la ville. Et oui, on en a entendu parler, évidemment.
Voilà, où la chef Anto est venue, Hugues participait, il y avait aussi les chefs Sanda Wagena et Patrick Diaye. Et eux, ils ont tous créé des couscous nouveaux, avec des semoules qu'on ne connaissait pas, en fait. La chef Anto a fait un couscous avec...
Un couscous de niébé.
Mais oui.
Le niébé qui est le haricot cornille.
Oui.
Oui, et beaucoup de gens.
Black Eyed Peas.
Exactement, et beaucoup de gens ne savent pas, mais on peut faire du couscous avec.
Intéressant, et vous avez donc réalisé un couscous à partir de cette farine.
À partir de cette farine-là, et puis c'est accompagné de boulettes de sardines, parce qu'à Marseille, on mange énormément de sardines.
Quelles sont vos relations, chef Anto, avec Hugues Banda, ce Français d'origine congolaise, qui a donc un restaurant dans le quartier Noailles à Marseille, et on peut dire d'ailleurs
que
c'est un restaurant un peu transformiste.
Mais bien sûr, parce qu'en fait, si vous voulez, le midi c'est une cantine,
voilà.
Et le soir c'est un restaurant gastronomique avec un prix fixe, un menu fixe, qui s'appelle Kin, comme Kinshasa, et ça c'est un nouveau modèle, et ça fait partie de ce que ces chefs proposent aussi, des nouveaux modèles.
Alors,
moi,
Hugues.
Je m'entends très bien avec Hugues et beaucoup d'autres chefs parce que il y a quelques années, quand on a un moment, on se sentait un peu seul, on avait l'impression qu'il n'y avait pas d'autres chefs. Et je me rappelle lorsque j'avais travaillé pour les Galeries Lafayette pour leur campagne Africana en 2017, des Parisiens qui me disaient mais où sont les chefs? Où est-ce qu'on peut les trouver? Où sont les restaurants? Et je me suis dit mais pour nous Paris, pour nous Africains subsahariens, Paris c'est le 55e pays d'Afrique parce que on trouve tout à Paris. Et de voir que des Parisiens ne nous connaissent pas, c'est là que je me suis dit il faut vraiment trouver d'autres personnes, il faut vraiment créer des choses pour pouvoir nous reconnecter avec Paris et la France.
Alors si on regarde le verre à moitié plein, on se rend compte quand même, et c'est tout ce que raconte justement votre livre documentaire, chère Vérane, l'Afrique cuisine en France. Ah, il y a mes bouquins qui sont en train de se casser la gueule. On constate une énergie débordante des cuisines africaines partout en France, et pas seulement à Paris, chef Anto. Alors ce livre, il est crucial, très intéressant, parce qu'il permet de poser des mots sur une réalité dont on ne connaissait pas vraiment les contours, pour être très honnête. Moi-même qui suis critique gastronomique, j'ai beaucoup voyagé en Afrique de l'Ouest, même si ma vision de la cuisine africaine est tout à fait parcellaire, mais il y a des tas de plats que j'adore. Je compte bien y retourner d'ailleurs, parce qu'il y a, en termes de diversité, de saveurs, des plats et des produits tout à fait intéressants. Et ce livre, effectivement, il fait le point. C'est un état des lieux, et en même temps, vous étiez dans une position un peu inconfortable, puisque, je vous cite dans l'intro de votre livre, Vérane, « J'avoue avoir tout de même hésité à porter ce livre, je ne suis pas africaine, ce que j'ai d'abord vu comme un problème, mais en réalité cette nouvelle cuisine est nouvelle pour tout le monde, justifiez-vous ».
Bien sûr, je pense que c'est notre responsabilité à tous de regarder ce qui se passe autour de nous. Et en tant que documentariste, j'ai quand même beaucoup creusé la question, notamment à Marseille, de cette créativité qui est en train d'exploser devant nos yeux, dans nos assiettes. Et finalement, je trouve que c'était logique que qui que ce soit qui ait la chance de pouvoir faire un livre documentaire sur la cuisine d'aujourd'hui en France se posent et se disent « Mais qui est-ce qui, finalement, aujourd'hui, mérite un livre ?» Et je pense que c'est la cuisine afropéenne qui s'écrit aujourd'hui, notamment en France. Et c'est de notre devoir, notre responsabilité à tous, finalement, de l'accompagner, d'en parler, et surtout de faciliter son accès aux médias, comme aujourd'hui, et aux guides qui continuent à mettre cette cuisine dans la case exotique. Et là, vraiment, ça m'énerve.
Ou parce ethnique.
Ou ethnique, voilà. Parce que c'est un nouveau chapitre de la cuisine, un nouveau chapitre de la gastronomie mondiale qui est en train de s'écrire aujourd'hui. Et et elle s'écrit dans la douleur un peu, parce qu'on ne veut pas la mettre sur un pied d'égalité, notamment en termes de financement. Mm-hmm. Donc c'est pour ça qu'on est là tous aujourd'hui, en fait, et je vous en remercie. Et voilà. Et ce livre est issu de mon envie de documenter cette nouvelle cuisine.
Vous rendez hommage à quelques pionniers qui ont beaucoup contribué à la démocratisation des cuisines africaines en France. Alexandre Belaola, chef français d'origine camerounaise. Christian Abégan. Rougidia, première femme noire étoilée en France au fourneau de Petrosian. Hein. On était dans le 7e arrondissement de Paris à l'époque. Je me souviens, je lui avais consacré, quand j'étais plus jeune, un portrait dans le magazine L'Express. Et chef Anto, évidemment, alors la nouvelle figure, on ne parle que de vous.
Ah bon,
vous le savez, visiblement Véran, dans toutes les interviews qu'elle a menées auprès des figures d'origine africaine, le nom de chef Anto revient systématiquement. Vous donnez des cours de cuisine africaine, vous créez des repas en qualité de chef privé, vous présentez une émission culinaire sur Canal Plus Afrique. France 5 vient de vous confier les rênes de l'émission Échappée Belle. Il faut dire que vous avez une connaissance panoramique, transversale, érudite des produits et des recettes de toute l'Afrique, c'est tout à fait impressionnant. Et en plus, pour enfoncer le clou, vous venez d'ouvrir Baraka, qui est une épicerie dédiée aux meilleurs produits africains.
Aux meilleurs produits africains, parce que mes clients, à un moment donné, surtout quand je donnais des cours de cuisine, me disaient « Anto, on veut acheter les produits ». Et moi, je les envoyais à Château Rouge. Je leur disais « Allez à Château Rouge », je recommandais. Et à chaque fois, je me suis rendu compte que soit ils n'y allaient pas, parce qu'ils avaient peur. J'ai rencontré des Parisiens qui me disaient « Mais ça fait 50 ans que j'habite à Paris, je ne suis jamais allée là-bas. » J'ai rencontré des gens qui m'ont dit aussi « Mais on y est allé, mais on n'a pas su nous renseigner. » Et d'autres qui m'ont dit « J'avais peur de poser des questions et de paraître bête. » Et ce que je dis toujours dans mes cours de cuisine, je dis « La question bête, c'est celle qu'on ne pose pas. Vous avez le droit de ne pas savoir, vous avez le droit de ne pas connaître, et moi je suis là pour répondre à vos questions. » Et c'est comme ça que l'idée de Baraka est née. Baraka qui n'a rien à voir avec le mot chance. Moi, Baraka vient du nom de quartier où ma grand-mère habitait au Gabon. Et ce nom vient du fait que pendant longtemps, en fait, pendant l'esclavage, il y avait des baraques à esclaves au temps des Portugais. Parce que ce sont les Portugais qui ont découvert le Gabon en premier. Et on a donné à ce quartier le nom de Baraka.
Ça a ouvert tout récemment.
Ça a ouvert tout récemment. L'ouverture officielle, c'est le 25 octobre. Mais on peut déjà venir à la boutique.
Juste avant de déguster ces acras formidables, bien bronzés, joliment dorés, qui sortent tout juste du bain de friture et qui sont tellement bons. Une petite question, je dois être le 117e journaliste à vous la poser. Vous êtes auto-baptisé dans les réseaux sociaux, vous avez beaucoup de succès. Vous êtes auto-baptisé Le chef Anto, au masculin. Est-ce que c'est pas un peu à contre-courant des aspirations de nombreuses femmes qui revendiquent le féminin, au contraire ?
Oui, et je comprends tout à fait ces femmes-là, sauf que moi, Anto vient de mon prénom qui est Anto Pindi, qui veut dire femme des champs. Mm-hmm. Anto pour femme, et Pindi pour les champs. Et Anto veut dire aussi féminin dans ma langue maternelle, le gallois. Et donc, le chef Anto, c'était pour dire le chef au féminin.
Pas facile d'être une femme chef. Une femme chef en France, Véran, on sait quelque chose. Pas facile non plus d'être une femme chef en Afrique.
En Afrique, et c'est vrai que pour beaucoup de personnes encore, déjà, la cuisine, c'est l'histoire de femmes. Mm-hmm. Mais dès qu'on veut professionnaliser, on préfère mettre des hommes, notamment sur le continent, parce qu'ils se disent une femme, elle sera souvent absente à cause des enfants, pour différentes raisons. Et donc, on confie beaucoup plus ces tâches-là aux hommes. Et c'est vrai qu'en 2010, quand moi, après mes études, j'ai voulu rentrer au Gabon pour travailler, je n'ai pas trouvé de travail, parce que souvent on me disait, mais une femme, ça cuisine à la maison.
Ah. Et c'est pour ça qu'en fait, tout ce qu'on fait ici en France a du sens de façon internationale, en fait. Le fait de mettre en avant les femmes chefs en France a un impact ailleurs aussi, pour montrer qu'effectivement, le métier de chef n'est pas réservé aux hommes. Ça aussi, ça a été effectivement le sujet d'un documentaire, de plusieurs livres. Mais je trouve que la démarche de la chef Anto, moi je dis la chef Anto, mais effectivement c'est très personnel, nous permet d'envisager aussi que de l'autre côté de la Méditerranée, on est de plus en plus de femmes chefs.
Absolument.
Voilà. Et c'est en train de se produire. Mais comme cette cuisine qui s'écrit en France a aussi un impact de l'autre côté de la Méditerranée, où des chefs finalement remettent à plat aussi les cuisines traditionnelles, là-bas aussi.
Chef Anto, quand vous m'avez dit que vous alliez nous préparer en direct, surtout pas réchauffé, mais vraiment friture, boum boum en live, des acras. Alors moi, spontanément, qui suis très attaché aux Antilles françaises, je raisonnais beignet de morue.
Oui.
Or, si on remonte encore un peu, on se rend compte qu'acra a bel et bien une origine africaine.
Exactement. Acra vient du mot akara, qui veut dire beignet en yoruba. Le yoruba est un peuple, et le yoruba, c'est un peuple qu'on retrouve au Bénin et au Nigeria. Mm-hmm. Et akara, à la base, c'est un beignet de haricots. Et en fait, c'était les haricots frais qui étaient broyés et agrémentés d'oignons, d'ail et de différents aromates et qui étaient frits. Et les femmes les vendaient dans la rue. Et elles disaient acaraillées pour dire j'ai des acras. Et cette recette s'est retrouvée notamment avec au Brésil, donc en Amérique du Sud, avec les esclaves qui ont reproduit cette recette-là. Et quand vous allez à Bahia au Brésil, ils disent acaraillées. Et ceux qui se sont retrouvés aux Antilles, après, on a remarqué qu'ils ont adapté, en fait, les Africains dans le monde, les descendants, les afro-descendants ont adapté cette recette d'acara avec ce qu'ils ont trouvé sur place, notamment aux Antilles, avec les acras de morue.
Mais alors, pas un gramme de morue dans les vôtres ?
Pas un gramme de morue,
du manioc,
moi c'est
ce
du
fameux
manioc.
Tubercule, qui n'est pas d'origine africaine d'ailleurs. Le manioc, c'est d'origine amérindienne. Mais ça
c'est encore une autre histoire. J'en parle dans le prochain livre.
Je
sais que je ne suis pas d'accord avec cette affirmation, mais c'est une autre.
Ouh là là, manioc entre parenthèses alors.
Mais effectivement, c'est une recette de grand-mère parce que le manioc, quand on le déterre, vu que c'est riche en eau, il faut très vite le consommer, sinon ça pourrit. Et donc, c'était une façon de pouvoir consommer le manioc différemment. Et là, donc, on a de la pâte de manioc qui va être pressée pour enlever l'eau et agrémentée de différents aromates. Et on va frire et vous avez des acras de manioc.
C'est addictif, c'est rebondissant, la texture.
Ça a une consistance géniale, parce que croustillant autour et vraiment le côté rebondissant avec une mâche hyper agréable. Et puis il y a les petites cébettes aussi dedans,
On a de la cive, on a un tout petit peu de piment, on a de l'ail, on a du persil, et voilà.
Elle est à la portée de tous, cette recette ?
Elle est à la portée de tous.
Je me tournais vers Jean, notre prof de cuisine.
Oui, sans doute, moi j'ai déjà tout mangé, donc il n'en restait pas.
C'est ce que j'explique justement aux gens qui viennent au cours de cuisine, c'est que tout le monde peut le faire.
Parce que le manioc, en fait, on part de ce gros tubercule que l'on épluche, que l'on cuit, que l'on dessèche.
Beaucoup connaissent le manioc à cause de Koh-Lanta. Et à chaque fois, je dis, mais moi, si j'étais à Koh-Lanta, je leur ferais des recettes de manioc tellement j'en connais. Mais c'est vrai que ce tubercule-là, qui est un féculent, en tout cas en Afrique centrale, il fait partie vraiment de la base. Nous, c'est notre pomme de terre. On le retrouve dans beaucoup d'accompagnements.
Vos acras de manioc sont absolument addictifs. Non, franchement, j'ai tout fini. J'aimerais bien que vous passiez derrière la casserole en faire quelques autres, en attendant peut-être de se revoir dans quelques minutes, le temps d'une pause musicale. C'est Laurent Thomas qui réalise l'émission avec Laurent Baudouin, Fabrice Rivaud pour la préparation et l'organisation de l'émission. Allez, Lon Lon d'Angélique Kidjo qui réinterprète, écoutez bien, l'un des airs les plus célèbres de la musique française, à vous de le reconnaître. Bon appétit et bon voyage sur France Inter.
Va, no te va mi miedo tonacé, no te va miedo elo, miedo e miedo tonacé, lon lon ya o va mi du elo. Non viva mia ilo. Va, non viva do tone ase, e alon lo non vinye. Non viva do to agbe ya wo, non viva do to agbe ya wo, non viva mia ilo agbe le tekwa wo, mia ila. Mia ilo vivida na mesiame. Don, 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 don. Va, no te va mi, mia no to nase. No te va mia due lo. Mia due, mia no to nase. Non lo ya o va mi due lo. No viva mia ilo. Viva do to agwe yo wo, no viva do to agwe yo wo, no viva mia ilo agwe le tekwa wo, mia ila mia ilo vivida na mesiame. Non va don, non ne ka, non non va don, non ne ka, non non va don, non non vivida mia no du sesende mia du elo ne mia kuda.
Alors, vous l'avez ce grand air ?
Oui, le boléro de Ravel.
Ne vous pressez pas du tout. Hein.
Le boléro de Ravel.
Bravo, le boléro de Ravel de l'artiste réinterprété par l'artiste béninoise Angélique Kidjo. L'Afrique cuisine en France. C'est le thème de notre émission et c'est aussi le titre de votre livre, Véran Frediani, aux éditions de La Martinière. Une série d'entretiens, de portraits, avec une vingtaine de chefs, parmi lesquels évidemment Chef Anto. Autant dire que l'interview que vous consacre Véran Frediani est passionnante. Vous y déclarez notamment, Chef Anto, je vous cite, sauf si Véran a mal retranscrit, hein, je suis peut-être un peu parano, mais j'ai l'impression que lorsque l'on parle de cuisine africaine, on imagine toujours quelque chose de brut. J'aimerais également qu'on arrête de penser que les cuisines africaines sont pauvres. Elles sont riches.
C'est exactement ça. Et quand on parle de cuisine africaine, il y a souvent ces préjugés. C'est trop gras, c'est trop fort, ça sent trop fort. Alors beaucoup disent épicé, mais ils pensent pimenté plutôt. Qu'on a des produits on n'a pas de produits nobles ou que ça ressemble à rien. Alors quand on me dit c'est trop gras, je vous dis, vous savez, la mayonnaise, c'est pas africaine. Pourtant, on adore ça. Le foie gras non plus. Et pourtant, en fin d'année, on aime bien le foie gras, toutes les béarnaises, la purée de robuchon. Ça gêne pas. Quand on me dit c'est trop fort, je dis, moi je suis arrivée en France, j'ai senti le maroilles, les poisses, et je me suis dit comment on peut manger ça. Et pourtant, et beaucoup adorent ça. Quand on me dit ça ressemble pas à grand chose, ben quand vous voyez une blanquette ou un bourguignon classique, enfin visuellement ça donne pas, c'est pas sexy. Et pourtant, les chefs français, les gens ont réussi à adopter tous ces produits-là. Et c'est pour ça, même quand on me dit c'est trop pimenté, je dis, mais nous sommes des petits joueurs. Un Camerounais en moyenne va manger 5 kilos de piment par an, là où un Thaïlandais va être à 10 et un Mexicain à 25 kilos de piment. Donc ça veut dire que ce ne sont pas nos cuisines qui sont les plus pimentées. Donc ce sont de faux préjugés, de faux prétextes.
Il y a aussi le préjugé qu'on entend souvent, en Afrique on mange avec les doigts.
On aime manger avec les doigts. Moi, j'aime beaucoup manger avec les doigts. Je trouve que c'est meilleur. J'aime bien cette... Et puis, bon, certains trouvent que ça fait un peu sauvage.
Vu le nombre de gens qui mangent chez McDo, je pense qu'on a compris qu'on aimait manger avec les doigts ici aussi. Hein.
Bonne réponse.
Mais c'est vrai qu'on aime manger avec les doigts. Quand vous allez beaucoup en Afrique de l'Ouest, quand on partage notamment certains plats qu'on mange ensemble, c'est avec les doigts.
Non seulement il y a une connexion charnelle et tactile avec les ingrédients, mais il paraît même que sur le plan médical,
que c'est meilleur.
C'est beaucoup plus intéressant.
Exactement. Mais déjà parce que il y a cette façon de la quantité qu'on va mettre à la bouche. On a une façon aussi de mâcher lorsqu'on mange avec les doigts. Il y a tout ça autour. Et moi, quand j'ouvre aussi l'épicerie fine, c'était aussi pour montrer les trésors que nous avons. Parce que moi, quand je voyage et que je vais dans ces villages, je me dis mais on doit à tout prix savoir qu'il y a ce genre de produits chez nous.
Vous allez nous faire goûter d'ailleurs d'excellentes choses. Mais le paradoxe, c'est que d'un côté, évidemment, cette cuisine africaine ou ces cuisines africaines sont victimes des préjugés que vous avez évoqués à l'instant en France. Et paradoxalement, il y a une très très forte curiosité. Vous m'expliquiez que notamment les cours de cuisine que vous administrez sont fréquentés par des gens, des Français, qui n'ont strictement rien à voir avec l'Afrique, qui n'ont pas d'origines africaines.
Exactement. Au tout début, j'avais beaucoup d'afro-descendants. Mmh. Et maintenant, j'ai des groupes où il n'y a aucun afro-descendant. Et en plein de semaines, des fois un lundi soir, je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous faites un lundi soir à vouloir cuisiner des plats d'Afrique? Et beaucoup me disent, on vient par curiosité. Et je me rappelle, quand je me suis lancée comme chef privé, les gens sont beaucoup venus par curiosité, parce qu'ils connaissaient les cuisines d'Afrique du Nord, mais personne ne connaissait ce qu'on pouvait faire en Afrique subsaharienne.
Et puis reconnaissons aussi que ce n'est pas à notre décharge. pas toujours facile d'appréhender des cuisines. Il faut aller dans des épiceries où parfois on ne connaît pas les produits, où le nom de ces produits change d'un pays à l'autre. Oui. C'est pas simple non plus, c'est-à-dire que c'est aussi une cuisine qui peut apparaître comme assez inaccessible.
C'est vrai, et je suis contente que beaucoup de professionnels aient fait des efforts de ce côté, notamment des restaurateurs, pour adapter. Parce que moi, je me suis rendu compte, à un moment, quand je décide de me spécialiser dans ces cuisines-là, je regarde ce que font les Asiatiques, et on se rend compte, quand vous allez manger indien en France, c'est pas la même chose que si vous allez manger indien en Inde. Quand vous allez manger chinois en France, c'est différent de chinois aux États-Unis, c'est différent de chinois en Australie, et même les restaurants chinois au Gabon proposent quelque chose de complètement différent, parce qu'on s'adapte à la population. Et nous, c'est vrai que pendant longtemps, nos restaurateurs, c'était nous, chez nous, on mange ça comme ça, donc vous devez manger comme ça. Le poisson entier avec la tête et les arêtes, et quelqu'un qui connaît pas, qui voit un poisson entier avec la tête, les arêtes et tout, tout de suite, il va avoir peur en se disant « je vais m'étouffer avec une arête ». Donc, certains ont pris vraiment le temps de moins pimenter, de beaucoup plus travailler le visuel aussi, et de pouvoir faire des filets, enlever les os, pour adapter vraiment à la clientèle parisienne et française aussi.
Transition toute faite vers une super adresse parisienne que vient de fréquenter Zazie Tavitian et qui justement contribue à la vulgarisation des saveurs africaines en France.
On va déguster.
Oui, j'y étais hier soir chez BMK.
Ah, ça y est, vous avez carrément révélé l'identité de cette adresse, Véran, puisque Zazie... Zazie est allée dans un restaurant à Paris, Véran aime beaucoup puisqu'elle a cité son nom.
Et bah oui, c'est donc BMK comme Bamako, donc Bamako, la capitale du Mali, et c'est un restaurant du 10e arrondissement de Paris. Effectivement, vous le connaissez, Véran, je le savais déjà parce que dans votre livre, vous citez parmi vos restaurants qui sont désormais dans votre liste du bon, et vous le décrivez comme connu et reconnu par tous les journalistes qui aiment manger, ce qui est tout à fait mon cas. Et ce que j'aime aussi dans cette adresse, c'est qu'il y a une toute petite épicerie, et depuis son ouverture, il y a 7 ans, elle fait tout un travail de référencement des produits. Petit à petit, Fousseini Djikine, le fondateur de BMK, avec son frère Abdoulaye, essaye de valoriser des produits africains pour faire vivre en Afrique, et notamment au Mali, une économie locale, dont celle des arachides. Alors j'y suis allée et j'ai d'abord demandé à Fousseini de me raconter la jeunesse de BMK.
Mon frère et moi, on a commencé à tremper dans la restauration, d'une part via notre maman, qui nous a toujours laissé entrer avec elle en cuisine, et notre papa qui a toujours été restaurateur depuis qu'il est arrivé en France. Donc ce qu'on voulait, en fait, c'était mettre en avant les cuisines africaines, parce que ce dont on se rendait compte, c'est que ce sont des cuisines qui sont méconnues et qui sont mal souvent mises en avant et valorisées par les personnes d'origine africaine en premier lieu. Et donc le début, c'était les recettes de notre maman, donc c'était des recettes plutôt maliennes. Donc par exemple le mafé, qui est le plat phare des deux restaurants. Et du coup, le point de départ, c'est effectivement l'arachide, parce que la recette de notre maman, enfin la recette telle qu'elle nous la cuisinait quand on était plus jeune, c'était à base de la dakatine, donc il y a une pâte d'arachide industrielle qui est utilisée par une large majorité de familles africaines qui cuisinent ce type de produit. Et du coup, si vous voulez vraiment être authentique, il faut vraiment travailler l'arachide en elle-même. Et donc c'est comme ça qu'on a testé, on s'est rendu compte que finalement le goût était encore meilleur, sans déguiser les plats et sans les revisiter, en fait, juste partir du produit et avoir des plats qui sont encore meilleurs en goût. En fait, la culture d'arachide est extrêmement répandue dans le village natal de notre papa, qui est dans l'ouest du Mali, qui s'appelle Gabou, qui est près de Kaï. Du coup, là-bas, la culture de l'arachide, en fait, c'est quelque chose qui est fait de manière très naturelle, essentiellement par des femmes. Et la difficulté qu'on a eue au début, c'était une problématique sanitaire. En fait, il y a une toxine qui est très souvent présente dans les récoltes d'arachide en Afrique de l'Ouest, l'aflatoxine, et qui est peu connue par les populations locales parce que très souvent, ils cultivent et ils consomment leur production. C'est aussi pour ça qu'on trouve très rarement des arachides africaines en France et en Europe. Donc on a commencé à travailler avec un laboratoire qui est basé au Burkina Faso, qui a développé une solution naturelle pour contrer cette toxine. Et du coup, on a les volumes suffisants pour avoir une pâte d'arachide faite à base d'arachide qu'on importe du Mali.
Donc là, on est lundi, et donc c'est le jour où vous faites votre pâte d'arachide habituellement. Est-ce qu'on va en faire ensemble ?
Avec plaisir, si le chef est d'accord.
Bonjour, je peux vous demander votre nom ?
Fada. Comme vous voyez là, on vient de griller dans le four, et on va passer dans le robot avec de l'huile mixée, et c'est tout.
C'est assez simple en fait.
Oui, ça c'est simple.
C'est important que ça grille au four, ça va donner du goût aussi.
Oui, c'est ça, et coloré aussi.
Et est-ce que ça change vraiment le goût du mafé d'avoir cette pâte-là faite maison par rapport à une pâte industrielle ?
Bien sûr, bien sûr. Ça change vraiment, c'est comme on est au pays quoi.
Alors, vous allez pouvoir le constater vous aussi à quel point c'est délicieux, car vous l'avez devant vous.
Ah bah oui.
Mais ça a bien failli pas être le cas, car ça m'a rendu complètement accro cette pâte. J'en ai fait cette semaine des cookies d'un cœur fondant, mais aussi un mafé que l'on appelle d'ailleurs plus traditionnellement au Mali tiga dégué. Tiga, c'est arachide, et donc tiga dégué, c'est sauce à base d'arachide. Et Fousseni me racontait que son père consommait aussi beaucoup le djouka, c'est des arachides broyés avec du fonio. Le fonio, c'est cette petite céréale très nutritive que l'on cuisine de multiples façons et dont vous avez fait une chronique, Jean, d'ailleurs, il y a peu de temps. Est-ce que vous l'avez goûté ?
Ah mais c'est dingue, avec ces petits morceaux croustillants.
Non mais j'adore.
C'est d'une gourmandise. Et là, il y a zéro sucre.
Il y a zéro sucre.
Pas d'huile ajoutée, c'est de la pure arachide.
Oui, parce que j'en ai aussi beaucoup mangé juste à la petite cuillère comme ça, c'est aussi très bon.
Différence avec d'ailleurs la pâte qu'on trouve aux États-Unis qui est très sucrée.
Oui. Peanut butter.
Voilà, le peanut butter.
Beurre de cacahuète, mais alors là, ils y rajoutent du sel, du sucre, de l'huile ajoutée. Vous en vendez de la pure... pâte d'arachide ou pas chez Baraka, votre épicerie ?
Non, je n'en vends pas pour une raison toute simple, parce qu'aujourd'hui sur Paris, on peut en trouver un peu partout.
Oui.
Moi, je conseille toujours à mes clients de regarder la liste de composition. Normalement, vous devez avoir zéro sucre ajouté, vraiment de la pure. Souvent, sur les produits qu'on trouve, c'est 98 à 99% d'arachide dans la composition.
On parlait de beurre de cacahuète américain. Dominique Ancel, il y a des années en arrière, faisait un Paris-New York, quelque chose comme ça, où il faisait un praliné de cacahuète. Et ce qui est très étonnant, c'est que ça a un goût de sucre, sans sucre. Et ce qui est délicieux, c'est ce qu'on ne retrouve pas dans la pâte de cacahuète industrielle, c'est le goût. Et c'est peut-être la petite peau rose qui doit rester avec
l'arachide. Il y a une rondeur naturelle.
Il l'enlève majoritairement, mais il en reste un petit peu. Effectivement, c'est aussi la façon dont c'est broyé, plus ou moins lisse. Et là, il y a aussi un peu de la texture.
Zazie, revenons à nos moutons, parce qu'il existe un large répertoire de plats africains à base de pâtes d'arachide.
Oui, et dans différentes régions d'Afrique. Dans le très bon livre du chef Alexander Small, La cuisine africaine d'aujourd'hui, recette familiale des plus grands chefs africains, qui va paraître la semaine prochaine chez Faïdon, j'en ai recensé pas mal, notamment la recette du soso yomwamba du chef Dieuvel Malonga. C'est un bœuf mijoté avec aussi de l'huile de palme, une recette qui vient de République du Congo. Il y en a dans le chima au beurre de cacahuète de la chef Clara Kapelembe Boali, qui raconte d'ailleurs qu'en Zambie, les bébés sont aussi nourris avec des bouillie au beurre de cacahuète.
Ah bah c'est nourrissant.
Même au Gabon.
Et enfin, il y a aussi le sashila de Kandolo, c'est une recette de la chef Mwanka Mwimbu qui raconte qu'elle est souvent dégustée au moment du goûter en Zambie. Alors ça, c'est tout simplement des patates douces cuites dans de l'eau, puis plongées dans la pâte d'arachide.
Là, vous avez des mikatés aussi que Hugues Benda nous a donné. Et en général, c'est des puff-puff, des mikatés qui se mangent avec la pâte d'arachide.
Attendez,
aussi, un peu partout.
Expliquez-nous.
C'est des beignets de farine de blé.
En fait, c'est de la pâte de blé avec de la levure, donc dans la levure boulangère qu'on fait pousser et qu'on fait frire. Ça fait penser un peu, je crois, il y a les beignets carnaval en France.
Oui.
C'est à peu près la même recette. Et nous, on peut le manger de façon sucrée ou alors salée.
Et Hugues, on fait des amuse-bouches. Donc c'est là où, enfin c'est un exemple concret finalement de créativité.
C'est très élastique, nos amis anglo-saxons on dirait chewy.
Oui. Alors là c'est parce que c'est froid, c'est meilleur quand on vient de les faire.
Mais c'est bon.
Minutes. Moi ça me rappelle mon goûter quand j'étais étudiante et tout en sortant du lycée, vous en achetez dans la rue et vous le mangez comme ça.
Ça se dit, rappelez-nous la référence de ce livre un peu événement qui vient de sortir aux éditions Faïdon.
Alors, La cuisine africaine d'aujourd'hui, recette familiale des plus grands chefs africains d'Alexander Small avec Nina Oduro, apparaître le 2 octobre, donc dans deux jours. Et si vous voulez goûter l'excellent mafé de BMK, il y a deux adresses. Je les ai mis sur le site de l'émission, donc dans le 10e arrondissement de Paris. Et pour acheter de la pâte d'arachide, parce qu'il aimerait bien aussi pouvoir en vendre dans son épicerie, il faut attendre encore un petit peu. Il essaye d'en avoir assez pour pouvoir ensuite le vendre avec ses autres produits dans son épicerie.
Toujours au rayon de la pâte d'arachide, on a ce délicieux mafé qui a atterri dans nos assiettes, sous nos micros, mitonné par Chef Anto. Alors avec une viande auquel les Africains ne sont pas forcément habitués. Expliquez-nous pourquoi.
C'est vrai. Alors, j'ai remarqué, lorsque je me suis spécialisée dans les cuisines africaines, je me suis rendu compte qu'on ne cuisinait pas les bébés. Quand je dis cuisiner pas les bébés, c'est-à-dire le veau, en tout cas en Afrique subsaharienne, le veau, l'agneau, enfin des jeunes poulets. Et je posais toujours la question pourquoi. Et souvent, ils me disaient, mais les bébés, ils sont jeunes. Nous, on préfère, en plus, quand on a une famille nombreuse à nourrir, plutôt que prendre le petit agneau, ben on va prendre le papa ou le grand-père qui, voilà...
Plutôt logique, en fait.
Voilà, qui a vécu longtemps. Et puis, c'est pour ça que souvent, les viandes, on met longtemps à les cuire, parce que la viande aussi est très dure.
Et plus fibreuse.
Exactement.
Et donc, elle demande des temps de mijotage peut-être plus importants.
C'est
Jean
vrai.
Oui, est-ce que ça peut être lié à des coutumes d'agropastoralisme, où en fait, on ne gardait pas les veaux petits, puisque ça représentait plus de viande quand ils étaient plus grands? Finalement,
oui, c'est ça.
En termes de...
C'est-à-dire pour nourrir une famille de 10 personnes, mieux vaut avoir un gros mouton finalement qu'un petit agneau.
Exactement, c'est exactement ça.
Vous avez pourtant cuisiné ce veau avec ce mafé. Rappelons que le mafé a des origines maliennes, hein, même s'il est répandu dans toute l'Afrique de l'Ouest.
Oui, alors pour les origines du mafé, on dit mafé notamment au Sénégal, au Mali et dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest. Mais il faut savoir que quand vous allez en Afrique, dans toute la partie du golfe de Guinée, on a la sauce arachide. Vous en avez au Togo, vous en avez au Bénin, nous on en a au Gabon, au Congo. Et après, c'est une sauce qui va être adaptée en fonction de ce qu'on a. Au Gabon, par exemple, nous on le mange beaucoup avec du poisson fumé. Poisson fumé, poisson frais qui va être frit aussi. On va rajouter des épinards. Au Congo, ça va être avec différentes viandes et aussi. Et pendant longtemps, en fait, on a remarqué historiquement que l'Afrique de l'Ouest, notamment la partie Casamance, Sénégambie et tout ça, c'était les premiers producteurs d'arachides. Et donc, c'est ce qui explique que toute cette partie-là, on mange énormément de pâtes d'arachides. Parce qu'après, avec les échanges commerciaux de l'époque, ben, et puis les mariages aussi inter-royaumes, ben, les femmes, quand elles allaient en mariage, elles partaient avec leurs recettes qu'elles adaptaient après en fonction de ce qu'elles trouvaient dans leur nouvelle famille.
Mais quelle régale cette sauce! Elle a une profondeur, à la fois une rondeur et une persistance en bouche tout à fait étonnante, accompagnée de bananes plantains et de riz cassé.
Bananes plantains vapeur, riz cassé, et il y a une particularité dans la sauce arachide.
Ah bah voilà, il y a un secret alors.
C'est qu'ils mettent la graine de néré.
Là ?
La graine de néré.
Ah, graine de néré. Alors
exactement.
Moi, ça me dit rien, ça.
Donc, moi, la première fois que j'ai découvert ça, c'était au Togo. Je dis toujours à mes clients, ça n'a pas le goût de son odeur.
Bah, c'est une grande inspiration.
Vous savez ce que ça sent ? Pour moi, ça sent le gnocchmam.
Oui.
C'est-à-dire un truc très, très, très fermenté, limite un peu pourri.
Bah, en fait, c'est une graine qui ressemble à une lentille qui va être cuite longtemps, pendant 48 heures, et qui va être fermentée, et qui donne, quand on la cuisine, qui donne un goût un peu de fromage.
C'est ça, un peu parmesan.
Exactement,
un peu parmesan. En fait.
Et c'est juste incroyable dans les sauces.
Mais ça se râpe, comme la noix de muscade.
Alors vous en trouvez en poudre, là c'est en boule, mais vous en trouvez en poudre, vous en trouvez en granules, j'en ai dans l'épicerie.
Mais je veux absolument apprivoiser ça.
C'est incroyable.
Et vous en vendez chez Baraka, votre épicerie du 15e arrondissement
c'est
à Paris.
Ça,
On va s'y précipiter, chef Anto. Dans un instant, Vérane Frediani nous révèle quelques-unes de ses meilleures expériences africaines en France, parce que vous avez fait quand même le tour de la France.
Un petit tour de France quand même. Ouais,
Etretat, ouais. Limousin, Paris, Marseille,
c'était
évidemment
le but.
Votre ville natale.
Le but de voyager un peu différemment, quoi.
Et ben, ouais. Vous allez nous donner quelques bons plans.
Il me chante la mélodie et voit que la moula du Katanga. Chapeau a changé de niveau, c'est bien que tu vois pas qu'on vient d'en bas. Ah. Tu passes au log 2, 3, 7 ans, le grand lobby. Si tu supportes, ne passe pas les logs. Et en gros, c'est canon de Hagan, même avec le down loot. Code négé sur le switch avec ballon plein. J'grandis plus. Ma chaîne des combats de daron. Il le vois-tu? C'est carré seulement si c'est pas haut. Zéro. Ils comprennent pas c'est quoi ces tarots. Nos schémas vont les rendre paro. Pas qu'à s'y vient pas faire le mot là, ça fait bien longtemps qu'on a compris qu'il fallait bon chat comme un titan. Oh là, m'a fait pas le sang, j'ai capté dans mes projets, tu passes pas la mi-temps. La petite fait un que je la ouette pour qu'elle se complète, je la capte comme un deton. Petit, faut pas que je reste, la famille m'appelle, la douleur est présente. Ah.
pas, mais pourquoi tu quêtes?
Je
suis dans ma quête, il n'y a pas de stress. Tu sais qu'on les blesse, oh ça bégaye en brut. Je parle que le net, grosse tempête à la Hesse. Baby, moi chante la mélodie.
Pioché sur la playlist de France Inter par notre Djoubaka national, l'artiste franco-camerounais Yamé avec le titre Cat.
Sur France Inter, avec François-Régis Gaudry, on va déguster.
Les cuisines africaines donnent de la voix en France. C'est le thème abordé de manière extrêmement érudite, conviviale, complète, avec les photos
de moi-même,
de sa propre signature. Absolument, l'Afrique cuisine en France, un tour de France, des parcours inspirants, 60 recettes, 20 portraits aux éditions de La Martinière, travail éblouissant. Comme à chaque fois qu'elle nous fait le coup, Vérin de Frediani, que ce soit un film ou un livre, on sait que ça va très très loin dans le sujet. Alors justement, on a envie de vous demander, parce que pour tous ceux qui nous écoutent et qui ont envie de se frotter à cette cuisine souvent méconnue, vous-même, j'imagine que lorsque vous avez fait cette quête et cette enquête en France, il y avait au moins la moitié des expériences que vous ne connaissiez pas.
Bien sûr, mais c'est le but en fait, parce que j'ai passé 2 ans à faire ce livre et moi, dans tout ce que je fais, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de découvrir. C'est la démarche et le chemin qui m'intéresse, pas forcément finalement le résultat. Pour moi, il est génial, bien sûr, mais c'est les 2 ans que je viens de passer avec tous ces chefs qui étaient passionnants. Voilà. Et donc, si je devais en choisir quelques-uns, c'est toujours très dur parce que finalement, j'ai déjà fait mon choix avec ce livre. Vous imaginez bien que si j'ai mis 20 chefs dans ce livre, j'en ai rencontré beaucoup plus.
Bien sûr.
Mais je dirais que, bon, bien sûr, la chef Anto à côté de moi.
Eh oui.
Et pour parler de Paris, il y a Pierre Suet aussi qui va ouvrir son restaurant, la table Penja, qui ouvre en octobre.
Absolument.
Ça, c'est des adresses à Paris. Mais
on
alors après, il faut sortir de Paris. Alors là, franchement, je vous invite tous à prendre le train quand même un peu, hein, et au-delà de la banlieue, parce que à Étretat, par exemple, vous avez Senda Wagena, qui est dans un restaurant qui s'appelle Racine, qui est un chef qui a beaucoup travaillé, qui vient du Togo, mais qui a travaillé en Italie. Et donc, justement, là, le mélange des cultures culinaires, il est super. Il y a vraiment une écriture d'une nouvelle grammaire culinaire. Ensuite, vous avez à Lyon, bien sûr, Jules Niang, là, formidable penseur, poète, créateur, qui lui, par contre, défend l'idée d'une
cuisine... Mi-Sénégalais, il est à cheval entre deux cultures.
Non, la Mauritanie et le Sénégal. Parce qu'en fait, il y a aussi ce problème-là, des frontières qui ont été mises un peu de façon de façon arbitraire.
Une règle et à tracer une ligne droite.
Voilà, avec des tailles de pays décidées par finalement le Nord. Et donc lui défend une idée de la cuisine africaine, avec des similarités finalement entre les pays qui sont pour lui importantes à signaler. Et puis après, on a bien entendu notre chef étoilé du moment, Georgiana View, la Woman King. Je pense que bon, c'est pour moi l'expression exacte de ce qu'il faut défendre aujourd'hui en France, c'est-à-dire une haute gastronomie aussi portée par des personnes qui sont nées en Afrique subsaharienne et qui ont travaillé dans des restaurants étoilés français et qui aujourd'hui, encore une fois, écrivent un nouveau chapitre de la gastronomie française et il faut en être très très fier.
Marseillaise d'origine béninoise, d'origine de Cotonou.
C'est une vraie Marseillaise. On est tous des vrais Marseillais. On n'a pas besoin d'être né à Marseille pour être Marseillais. C'est ça la beauté de la ville, hein, quand même.
Et qui a effectivement récolté une étoile Michelin au Fourneau de Rouge.
Oui,
un restaurant d'hôtel à Nîmes, dans le Gard, absolument. Les auditeurs et les auditrices de notre émission nous indiquent d'autres plans.
Oui, beaucoup d'adresses. Jean. Alors je vais essayer d'être exhaustif, d'est en ouest, du nord au sud. On a l'Ébène à Nancy qui nous est recommandé par Nicolas de Pouteau. On a également à Cannes qui est installé à Tours, dont on m'a parlé plusieurs fois. À Salon de Provence, Sarah Roche nous parle de Couëtu. Dans le pays de Gex, assez déroutant, Monsieur Perron nous parle de la maison Tenanga, où il faut réserver en avance parce qu'elle fait sur commande. Donc elle attend d'avoir le nombre de convives avant de cuisiner. Le Lagos Grill à Grenoble, le rouge, on en a parlé.
Ah.
On me parle également d'une boutique près de Nanterre qui s'appelle Les Pyramides, qui fait un petit peu de tout. On a l'Ours Herbivore à Saint-Brieuc, dont nous parle Sophie Gagnic, les saveurs de Fatou à Toulouse, dont nous parle Sabine Esponda. Et plus près d'ici, enfin plus près de la maison de la radio, on a le Babylon Bis rue Ticton qui est ouvert toute la nuit. Et on nous parle également de la cantine de Babelville. Voilà, un petit peu.
Et évidemment, on ne pourrait pas faire cette émission sur les cuisines africaines en France sans citer Maurice Sacco, qui a quand même fait la une de Time il y a quelques temps.
Bien entendu, bien sûr, il est dans le livre d'ailleurs, Maurice.
Il est à la tête d'un restaurant étoilé, rue Raymond Losserand, hein, dans le 14e arrondissement de Paris. Il est dans votre livre, il y a une place de choix d'ailleurs.
Mais forcément, c'est la star du moment, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Mm-hmm. Donc moi, j'étais ravie qu'il soit dans le livre et il était ravi d'en faire partie. Mais de toute façon, il est dans un livre collégial et ce livre appartient à tous les chefs qui sont dedans. C'est votre livre.
La chronique de Jean-Mata Cristol.
France Inter. On va déguster.
Jean-Mata Cristol, Auvergne, Afrique, mais quel est le rapport avec la choucroute? Ou plutôt la morue?
La morue. Quand vous m'avez proposé de venir aujourd'hui pour une émission consacrée à la cuisine africaine, François-Régis, je vous ai répondu que je n'étais ni spécialiste, ni Léa Seydoux, et que je n'avais jamais mis les pieds en Afrique, et surtout que j'étais tout de même très très blanc pour être légitime.
Mais vous êtes en plateau aujourd'hui et vous avez quand même trouvé le moyen de nous parler d'Auvergne.
Et oui, absolument. C'est une méthode désormais classique que nous ont enseigné les commentateurs des chaînes d'infos en continu. Si on ne sait pas quoi dire sur un sujet, le mieux c'est de parler de ce qu'on connaît, ou d'immigration. Donc aujourd'hui, je vais vous dire ce qui lie les sieurs de long auvergnat, la cuisine béninoise et l'esclavage aux Antilles. C'est la morue. Lorsque les sieurs de long, alors les sieurs de long, c'est le nom qu'on donnait aux cultivateurs du Massif central qui occupaient leur hiver sans récolte, en devenant sieurs, en suivant les bûcherons. Quand ils revenaient des chantiers navals du Var ou de Bretagne, c'était avec une paye maigrelette, mais aussi avec un élément qui pouvait supporter le voyage, de la morue. Voilà pourquoi cette spécialité de poisson a trouvé sa place dans un territoire sans front de mer, hein, l'Auvergne. La morue, rappelons-le, c'est le nom du cabillaud après avoir été salé, le salage et la saumure étant un moyen de conservation incontournable pour emporter des denrées lors de longs voyages. Lorsque les plantations de canne à sucre se sont multipliées aux Caraïbes, la capture et la déportation d'esclaves originaires d'Afrique de l'Ouest ont également été exponentielles. En résumé, avec des esclaves à la cale et de la morue à la cambuse, les acras n'allaient pas tarder à voir le jour.
Donc, on en a déjà beaucoup parlé, mais les acras seraient une survivance de ces temps sombres. Hein.
Alors, je ne vais pas revenir sur tout ce que le chef Anto nous a expliqué tout à l'heure. Le long chemin des acras de morue vers la popularité, d'abord aux Antilles, puis par effet rebond au Portugal avec les échanges commerciaux entre le Brésil et le vieux continent, c'est une histoire complexe qui recoupe quelques-unes des principales origines d'une spécialité gastronomique. La disponibilité alimentaire, l'effet religieux et la conjonction des bonnes personnes au bon moment.
Alors on va goûter vos acras, non ?
Absolument pas, parce que je n'ai pas fait d'acras. En revanche, je vous ai apporté ma version 2024 de la morue à l'auvergnat.
Ah, chouette !
Alors, rappelez-vous, quand il y a des auvergnats, il y a de la patate, c'est un classique, d'accord ?
Oh, c'est bon.
Donc, en l'occurrence, c'est pas de la morue, puisque le cabillaud est victime de surpêche. Donc là, en l'occurrence, c'est du merlu que j'ai acheté ce matin au marché. Et pour l'anecdote, à côté du poissonnier au marché Avenue Doménil, il y a une dame éthiopienne qui vend tout un tas de choses assez incroyables. Ça, c'est pour l'anecdote, puisqu'on n'a pas parlé d'Éthiopie. Ce sera peut-être une autre émission.
Absolument.
Donc, c'est des pommes de terre cuites à l'eau. Il y a également des œufs durs, histoire d'être sûr qu'on mange l'autre protéine aujourd'hui. J'ai poché le poisson dans de la crème et après, j'ai fait réduire la crème que j'ai versée sur les pommes de terre, les oignons confits avec un petit peu d'ail, également du persil. Tout le détail de la recette est bien entendu sur le site de France Inter.
Petit commentaire de dégustation sur cette morue à l'auvergnate, c'est bon, non ?
Oh, c'est délicieux, j'ai tout mangé. On est laissé pour personne.
Moi, j'ai bavé de...
Ah. Et c'est effectivement assez...
Zazie. Ah oui, c'est reparatif, ça tient encore.
Mais c'est la brandade, mais... Enfin, pas brandade, mais à côté,
oui.
on sent bien tous les goûts, tous les morceaux. Mm. C'est une découpe différente, ça change de la brandade, justement.
Et alors, pour l'anecdote, et avant que des Aveyronnais furieux nous écrivent, ça ressemble également à l'estofinate que les Aveyronnais font toujours avec du stockfish, oui. Puisque les gabariers qui remontaient le Lot depuis Bordeaux avaient dans leur cale le cabillaud séché également, qui était pêché cette fois dans les eaux norvégiennes et chargé à Bordeaux, qui était en ce temps-là un port de négoce. Donc, quand ils accostaient près du bassin de Decazeville en Aveyron, forcément, on faisait des choses également avec ce stockfish.
Ce stockfish qu'on trouve aussi beaucoup dans la cuisine niçoise, mais on s'égare un peu. On va finir avec une touche sucrée.
Oui.
Et une touche sucrée qui enferme, là encore, un produit mystère qu'on connaît très mal en France, autant le dire tout net, hein, Chef Anto, qui donne à ce délicieux cake une couleur verte.
une couleur verte. C'est le moringa.
Le moringa.
Oui, le moringa, qu'on appelle aussi arbre de vie, parce qu'il est utilisé beaucoup en, médecine traditionnelle. En médecine traditionnelle, parce qu'il soigne pas mal de choses. Et c'est vrai que c'est, moi, la première fois que je découvre ça, là, ce que je me dis, tiens, ça ressemble au thé matcha.
Oui. Bon, d'ailleurs, on pourrait penser à, effectivement, la couleur du thé matcha dans ce cake.
Exactement.
Le pandan le pandan thaïlandais.
La vanille asiatique. Ouais.
Et c'est comme ça que je me dis, tiens, parce qu'on connaît traditionnellement, le moringa se mange salé. En Afrique, et je me dis, ben tiens, si j'essayais des recettes sucrées avec. Et c'est comme ça, alors c'est très fort, hein, quand on le... parce que c'est un goût très végétal.
Ah, on le trouve comme ça en poudre, comme le thé matcha, en fait.
Oui. Exactement.
C'est un arbre tropical.
Donc vous pouvez le trouver en feuilles séchées pour des infusions, vous pouvez le trouver en feuilles fraîches, notamment dans les épiceries indiennes, parce qu'ils en utilisent aussi. On en trouve dans la médecine ayurvédique. Et le fait de le travailler en version sucrée, c'était très intéressant parce que ça se matche très bien avec tout ce qui est agrumes, tout ce qui est...
Là, c'est moringa citron.
Exactement.
Il y a une verdeur, un côté chlorophylle. Mais comment on pourrait définir le goût du moringa ?
Il y a un côté aussi acidulé, je trouve presque...
Un côté, exactement, comme disait Zazie, un côté bonbon qui pique... qu'on adore.
Exactement. Et puis le moringa, enfin brut, il y a une pointe d'amertume et qui peut être parfois désagréable. Et là, le fait de le faire en version sucrée, il est plus agréable.
Vous sortez un livre où il sera question notamment de moringa et de plein d'autres produits. Je l'ai eu en PDF, si j'ose dire. Je l'ai consulté sur ordinateur, mais il sera dans sa réalité papier en novembre le 23.
En novembre,
vous reviendrez nous en parler.
Bien sûr.
Vous nous rappelez son titre ?
Mon Afrique.
Mon Afrique. Aux éditions Mango. Le mot de la fin, Véran, s'il fallait passer un dernier message autour de votre livre.
Mais en fait, l'Éthiopie, c'est le café, c'est le berceau du café.
C'est vrai.
Et je me suis aussi.
Vous consacrez d'ailleurs des pages au café.
Amusée dans le livre à faire des focus comme ça, un peu inhabituels, sur le miel africain, le café, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'ignorance autour des produits, finalement, qu'on consomme régulièrement. Et je trouve que. Quelque part, ça, c'est de la curiosité qu'on n'a plus et il faut qu'on les... Voilà. Donc,
On va vous retrouver précisément, Véran Frediani, à Uzès, au festival
il paraît.
Saveur et Savoir. Votre livre était même en lice d'un prix littéraire qui récompense un livre de gastronomie autour de la culture. Il y avait dans le jury...
Ingrid Consti, Constance Lasserre.
Oui, il y avait Laura Adler.
Oui.
Il y avait Laurent Delmas, il y avait Elvira Masson. Je ne peux pas vous donner, évidemment, le verdict, le palmarès, je n'ai pas le droit. Hein, c'est
non, mais
sous embargo.
Je suis content de venir déjà pour voir tout ce beau monde.
Absolument, la deuxième édition du Festival Saveur et Savoir du 10 au 13 octobre, dont j'ai le plaisir, à titre totalement bénévole, d'assurer la direction éditoriale autour du livre de gastronomie avec cette ambition de bâtir des liens entre la gastronomie et la science, la littérature, l'histoire, la géographie, la médecine, la botanique ou encore le cinéma. Alors il y aura des grandes conférences interactives avec des signatures prestigieuses comme Michel Brass, Glenn Vielle, Stéphanie Lekelec, Georgiane Aviou, notre chef d'origine béninoise, l'ami Laurent Delmas, le monsieur cinéma de France Inter signe une très belle programmation au Capitole, le cinéma d'Uzès avec notamment une soirée autour de Gabin à table. Il y aura un concours de boulettes en public, une dictée gastronomique, des rencontres dédicaces. Et notre émission On va déguster dressera le couvert le dimanche 13 octobre en direct depuis la salle de l'Ombrière à Uzès. Alors il faut s'inscrire à l'avance sur le site du festival, festivalsaveuresavoir.fr. Et Georgiane Aviou sera d'ailleurs notre invitée. Voilà, Saveur et Savoir, deuxième édition du 10
elle
au 13 octobre
Georgiana
à Uzès. Bien sûr qu'elle va cuisiner.
Trop bien.
Et que de très belles choses de Cotonou. L'Afrique cuisine très en bien. France. Très très beau livre. On vous en recommande très chaudement la lecture. Signé Véran Frediani, un tour de France avec des parcours inspirant, 60 recettes, 20 portraits de chefs, et aux éditions de La Martinière, des photos superbes, prises sur le vif. C'est vous-même qui avez signé les photos. Et puis, Mon Afrique, toujours chez Mango Édition, ça c'est le 23 octobre. Merci Chef Anto. 23 novembre, pardon. Et on viendra à un cours de cuisine.
Oui, avec plaisir.
Autour des saveurs africaines. La semaine prochaine, l'anchois. Un poisson de choix avec notre spécialiste de la pêche, Charles Guiriec, Alessandra Pierini, évidemment, l'anchois en Italie, hein.
Bah oui.
Elvira Masson, Dominique Hutin, l'anchois en Afrique aussi.
Oui, l'anchois en Afrique.
Beaucoup. À dimanche prochain. Si vous avez encore faim,